croisés. Voilà, il y en a un en tous les cas qui ne mourra pas à Corban. Voilà, donc on espère qu'il va réussir son évasion.
Émission en solidarité avec les détenus et leurs proches. Rubrique, émission contre toutes les prisons. Lecture de textes de prisonnières et prisonniers. Émission contre toutes les prisons. Message des proches.
La petite cuillère.
Petite cuillère, un jeudi sur deux en alternance avec Papillon, en direct sur Radio Canu 102.2 FM. Et ce soir, on va parler de plein de choses à voir avec les prisons en France et à l'étranger. Avec, on va vous parler dans le bazar de Fleury-Mérogis et du quartier disciplinaire de la maison d'arrêt pour femmes. On va vous parler de la condamnation aussi de militantes et de militants d'ETA. Alors que d'autres ont été libérés selon contre quelques attentes, quoi. On va vous parler des riveraines et des riverains des prisons avec des attentes bizarres et contradictoires. On va aussi aborder un nouveau site web qui a ouvert en Belgique et qui est assez classe. On va aussi vous parler de grève de la faim, alors dans plusieurs endroits, au Cameroun, au Venezuela et ailleurs. On va aborder les conditions de détention dans les centres de rétention en Grèce. Et enfin, on va avoir plein de petites brèves aussi qui sont toutes plus folles les unes que les autres avec des évasions extraordinaires. Et bien sûr, en fin d'émission, il y a quelques messages, il y a pas mal de messages cette semaine pour les détenus de la région lyonnaise.
Eh ben oui, alors je te propose de commencer.
Eh ben tout de suite, tout à fait, avec ce qui a à voir plus ou moins avec les luttes en prison, parce que c'est une détenue basque qui a été libérée contre toute attente cette semaine par la justice espagnole. Contre toute attente, pourquoi ? Parce qu'elle avait beaucoup encore d'années à faire, mais la justice espagnole a décidé de compter à l'intérieur de sa peine toutes les années qu'elle avait purgées en France auparavant. Donc, elle n'a passé que 24 ans en prison. 24 ans, c'est juste énorme. Mais on s'attendait à ce qu'elle en passe au moins 8 de plus. Alors voilà, la justice espagnole, c'est la première fois en ce qui concerne des détenus basques. Qu'est-ce qu'elle a décidé ? Elle a décidé que les années passées en France en prison pour des peines qui ont été prononcées en France, m'a compté aussi dans son temps de détention à faire en Espagne et du coup l'a libérée. Il s'agit de Carmen Gisasola, qui était une ancienne militante de TA. Et c'est la première fois que ça arrive de cette manière-là. Mais par contre, il faut bien voir que ce n'est pas valable du coup pour toutes les détenues basques en Espagne. Pas du tout, parce que la particularité de Carmen Gisasola, notamment, c'est d'avoir dénoncé ETA, d'avoir renoncé à la lutte armée, d'avoir ouvertement critiqué toutes les organisations basques qui s'en réclament ou qui ne la condamnent pas officiellement, telles que Batasuna ou telles que ETA, bien sûr. Voilà. Mais dans le même temps, on pouvait donc se demi-réjouir d'une libération, mais dans le même temps, c'est quatre autres militants d'ETA qui ont été condamnés en France cette fois, de 6 à 8 ans de prison. Ils avaient été, deux d'entre eux avaient été arrêtés dans le Pas-de-Calais en 2011 et les deux autres avaient été arrêtés aussi en France. Et en fait, là, malgré le fait que le procès a fait apparaître qu'il n'y a rien dans le dossier qui démontre que ces deux militants, que les deux premiers militants avaient occupé des fonctions de chef des appareils militaires et logistiques de TA. Alors voilà, il n'y avait rien pour prouver ça, mais par contre, le procureur s'est basé sur le fait qu'ils occupaient une place importante dans l'organisation séparatiste basque. Alors voilà, une place importante, ça suffisait pour requérir 10 années d'emprisonnement. Et les deux autres militants, quant à eux, ils étaient armés au moment de leur interpellation et ils y ont été condamnés à 6 et 7 ans de prison juste à ce titre-là. Voilà, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose non plus de concret à leur reprocher. Alors voilà les petites nouvelles juridiques du côté des militants et des militantes basques affiliées ou pas à ETA. On en parle parce que c'est aussi des fois des détenus qui se bougent collectivement et donc donner des petites nouvelles délibérations et des condamnations. C'est un petit retour des choses.
Eh bien, excellente transition, parce qu'on va passer au bruit qui court maintenant.
Le bruit qui court.
Et donc, voilà, pour le bruit qui court, on en a un sacré paquet aujourd'hui. Je vais commencer par vous parler d'une révolte de détenus de la prison de Bangui. Alors Bangui, c'est en République centrafricaine, et les détenus de cette prison, ils se sont révoltés lundi 24 novembre. Armés de grenades et de kalachnikov, ils ont tenu en échec... Ils ont tenu en échec les casques bleus et les gardiens de la prison pendant de longues heures. Ils dénonçaient leurs conditions de détention. L'incident a fait 4 blessés, dont un grave parmi les casques bleus et 2 parmi les détenus. Tout a commencé vers 6h du matin. Les prisonniers de Ngaragba se révoltent quand les gardiens viennent chercher le corps d'un détenu décédé dans la nuit. Apparemment, il serait décédé de tuberculose. Ils protestent contre l'absence de prise en charge sanitaire suffisante et plus généralement contre leurs difficiles conditions de détention ou encore les procédures qui traînent. Il faut dire que la prison de Ngaragba, qui compte environ 450 places, accueille actuellement près de 620 détenus. Parmi eux, beaucoup sont en attente de leur procès depuis des mois. Bon, ça, on peut dire, ça ressemble quand même assez fort à ce qui peut se passer dans plein de pays, et notamment aussi en France, où on n'est pas en reste au niveau de la surpopulation carcérale. Bref, là-bas, en République centrafricaine, les mutins saccagent la prison. Des coups de feu claquent quand les casques bleus tentent de reprendre le contrôle de la situation. Les prisonniers lancent même des grenades par-dessus le mur d'enceinte pour empêcher les soldats de prendre la prison d'assaut. On ne sait pas où ils les ont trouvés, les grenades, mais franchement, bien joué. Au terme de longues négociations, bon, certainement aussi de nombreuses violences envers les prisonniers, les détenus acceptent de réintégrer leur quartier après avoir obtenu un engagement à l'amélioration de leurs conditions de vie et une accélération des procédures. Bon, ben voilà pour la République centrafricaine, mais c'est pas tout, on en a d'autres, des gens qui se révoltent dans les prisons d'ici, d'ailleurs et de partout.
Et des gens qui se révoltent ailleurs, on continue avec le continent africain, parce que c'est impressionnant. C'était une grève de la faim. Alors les grèves de la faim, on va en avoir trois là, je pense, les unes à la suite des autres, et des grèves de la faim massives, en commençant par celle au Cameroun, où 500, se sont mis en grève de la faim, c'est-à-dire tous les prisonniers de la principale prison de Kousséri, au Cameroun, pardon. Ils ont refusé de s'alimenter. Et pourquoi ? Parce que ils subissent des traitements inhumains, mais surtout parce que les repas, ils sont non seulement de mauvaise qualité, mais en plus, il n'y en a vraiment pas assez pour chaque personne. Une citation d'un détenu, c'est « Les porcs sont nourris mieux que nous. Ce n'est pas parce que nous sommes privés de liberté que nous devons être traités ainsi. » Voilà, et ils se plaignent aussi, bien sûr, de la vétusté de la prison, du manque d'hygiène et tout ça. Et ils racontent que même les visiteurs se plaignent du manque d'hygiène, ça va même jusqu'à écourter les parloirs pour en arriver là, c'est abusé. Ils dénoncent aussi les détenus camerounais de la prison de Kousséri. Ils dénoncent quasi-absence de suivi médical. Il y a un toubib pour 500 détenus, ce qui n'est pas du tout assez. Alors voilà, finalement, au bout de quelques jours de grève de la faim, à 500, ils ont suspendu leur grève de la faim pour voir si l'administration réagissait, avec comme menace de recommencer si jamais l'administration s'obstine. Dans le chapitre aussi des grèves de la faim, celles-là, ils sont un peu moins, mais ils sont quand même... plusieurs dizaines à être entrés en grève de la faim au Venezuela. Cette fois, on traverse l'Atlantique. Au Venezuela, où c'était mardi avant-hier, une grève de la faim a commencé dans une prison à Uribana, dans le sud-ouest du pays. Alors là, Ils dénonçaient les traitements inhumains, les violations des droits de l'homme dont ils étaient victimes de la part des matons du personnel pénitentiaire de cette tôle vénézuélienne. Les quelques dizaines de détenus en grève de la faim auraient peut-être fait une mutinerie et envahi l'infirmerie et pris des médicaments. Ou alors, si on change de médias vénézuéliens, il apparaît que des matons leur auraient donné des médicaments. Toujours est-il que ça a été une vachement mauvaise nouvelle d'apprendre hier que 21 détenus en grève de la faim au Venezuela étaient morts des suites des médicaments qu'ils avaient pris par intoxication médicamenteuse. Ce qui est un peu fou, quoi. Enfin, ou si c'est vraiment les matons qui leur ont donné ces médicaments, ça va vachement loin dans le fait de mater une révolte en faisant mourir 21 détenus qui étaient entrés en mutinerie. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Venezuela, pardon. Sachant que ça a continué au Venezuela, les révoltes ne sont pas arrêtées là, parce que mercredi, toujours hier, une quarantaine de prisonniers sont évadés d'un centre de détention provisoire aux environs de Caracas. Et c'était vers 2h du matin qu'ils ont profité d'une ouverture dans les murs de la tôle de Los Teques, dans le centre du pays. Et selon le journal local de la région, ces détenus étaient en attente de transfert, et sont barrés dans une trou à travers une porte. Voilà, alors on leur espère qu'ils vont avoir une longue cavale, et en tout cas, à l'heure qu'il est, aucun d'entre eux n'a été retrouvé.
Et on continue avec le bruit qui court, avec un petit bruit qui court qui vient d'arriver mardi 25 novembre, qui était la date de l'ultimatum qui pendait au-dessus de la France. La chancellerie avait jusqu'au 25 novembre, effectivement, pour résoudre un épineux problème qui traîne depuis 1875. Ouais, 1875, le problème de l'encellulement individuel. En fait, c'est un droit qui est inscrit, du coup, depuis cette date, dans le Code de procédure pénale. Les prévenus en détention provisoire sont placés en cellule individuelle, sauf s'ils ne le souhaitent pas. Bien sûr, on se rend bien compte que c'est absolument pas ce qui se passe en France et que c'est absolument pas possible à l'heure actuelle de faire quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est la même chose aussi pour les condamnés en maison d'arrêt, de jour et de nuit, et dans les établissements pour longue peine, mais la nuit seulement. De moratoire en moratoire, la mesure a été, faute de moyens, repoussée, et la finale date, ça a été mardi dernier, du coup. Par rapport à ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que à partir de maintenant, si vous êtes en tôle dans une cellule qui n'est pas individuelle, vous pouvez porter plainte au procureur de la République pour essayer d'obtenir une cellule individuelle. Officiellement, il faut savoir que selon des chiffres, bon, on sait bien ce qu'on pense des chiffres et comment on peut les manipuler dans tous les sens, mais bon, on va quand même vous les donner, ceux-là. Officiellement, 26 341 détenus étaient seuls en cellule au 28 octobre, sachant que le nombre change aussi tous les jours, pour 67 806 hébergés, entre guillemets. Hébergés, c'est le mot poli pour dire « personne incarcérée ». Ça fait du coup que 38,84% des personnes incarcérées qui étaient en cellule individuelle. Donc voilà, en fait, nous on voulait juste vous dire ça pour vous dire que si vous avez envie de faire chier la paix, eh ben vous pouvez porter plainte et vous pouvez essayer de demander une cellule individuelle si vous en avez l'envie.
Et on va continuer le bruit qui court avec des nouvelles beaucoup plus courtes cette fois. Et on commence avec le 11 novembre au Canada.
Et oui, dans la tôle de Trois-Rivières au Québec, les matons ont refusé un parloir à un détenu. Du coup, une vingtaine de détenus se sont mutinés et ont accédé aux locaux de service. De là, deux ou trois détenus sont montés sur les toits de la tôle.
Belle solidarité, magnifique. Et on continue, le 15 novembre, c'était à côté de Lyon, à Saint-Quentin-Fallavier, les matons ont refusé une douche à un détenu. Ce dernier aurait frappé deux matons, mais on ne sait pas s'il a lui-même été blessé. Placé en cellule disciplinaire, il a aussi tenté de se suicider.
Et lundi 25, un drone a été saisi près de la tôle du Bois d'Arcy dans les Yvelines, mais ce drone n'avait pas de caméra. Par contre, ne croyez pas qu'il a servi à rien, parce qu'apparemment, il avait une nacelle. Personne n'a réussi à savoir s'il avait balancé quelque chose dans l'enceinte de la tôle ou pas. une enquête serait en cours, mais en tout cas, ça fait plaisir aussi de savoir que des nouvelles technologies qui peuvent grave nous faire chier peuvent aussi trouver des petites failles dans les murs de la prison pour réussir à nous faire la vie un peu plus belle.
Et toujours le même jour, lundi dernier, dans la tôle de Villeneuve-lès-Maguelone, un détenu a refusé de réintégrer sa cellule à la fin de la promenade. Deux matons l'ont forcé à rentrer dans sa cellule au prix d'une blessure à la cheville pour l'un des matons et au dos pour l'autre. Comme souvent, l'administration pénitentiaire ne dit rien du refus de réintégrer sa cellule et des raisons, ni des blessures du détenu.
Maintenant, on vous met une petite musique. Enfin, bon, la musique a pas l'air de vraiment, vraiment marcher. On réessaye un petit coup.
Alors, peut-être si la musique ne marche pas, on a aussi une autre info qui est importante à relayer. C'est un détenu dans Le Bruit qui court toujours qui a foutu le feu à sa cellule à Fresnes. C'était samedi dernier et il a mis le feu à son matelas provoquant un début d'incendie. C'était déjà lui, en fait, la semaine dernière, qui s'en était pris à deux matons et refusait à ce moment-là de réintégrer sa cellule à la fin d'une promenade. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe à la tôle de Fresnes? C'est qu'ils ont inventé, dans les humeurs médiatiques du moment complètement folles, de faire une quartier de la prison entièrement dédiée aux détenus considérés comme islamistes et du coup considérés comme à surveiller particulièrement. Ils ont été regroupés ensemble. Ça ne leur plaît pas vraiment, puisque déjà, mi-octobre, quatre détenus avaient refusé de regagner leur cellule, dont le prisonnier qui a mis le feu à son matelas samedi soir. Alors, samedi soir, le détenu a donc été amené à l'hôpital de la Zonze, mais le médecin a refusé de le soigner parce qu'il était trop virulent et il n'acceptait pas l'autorité. Le méchant garçon. Donc, il a été transféré ensuite aux urgences du Kremlin-Bicêtre pour des brûlures aux jambes au deuxième degré. Et maintenant, on va peut-être s'écouter une petite musique. Avec un peu de chance, ça marchera cette fois-là.
Est-ce que tu me crois quand je te dis que je suis un sacré numéro? Une pulcra qui casse des vies avec les yeux quand elle n'a plus les mots. Impunément, moi j'envoie tout valser comme mon pouce accélère. J'aime pas la pression et j'ai l'impression que tout ça me vénère. Une petite fille ordinaire, ça remonte à loin, paraît que j'en avais l'air. Je rêve encore et toujours que ma vie change comme celle de Willa Belair. Je m'en fous de vos APL, vos RSA, je pense qu'on reçoit sous Rome. Je suis irresponsable, excusez-moi si je vous déçois souvent. Je traîne mes déboires dans la boisson, ça en devient saoulant. Je badais les miens en tourment, je crois que des pommes pourries à jouer les grosses gourmandes. Mais ça se commande pas, je manque de rigueur et c'est plus fort que moi. On me propose une liqueur. Et c'est dedans que mes rancœurs se noient. Je sais pas pourquoi je suis si triste et si perplexe. Ouais, j'ai la rage. Ma joie de vivre a pris perpète quand l'amour m'a dit je m'arrache. Depuis j'ai le cœur serré, la gorge nouée, l'estomac ulcéré. À force que j'en oublie la réalité que je sais plus gérer. Le bonheur qui s'équilibre, je sens comme un déséquilibre. Du cœur des tripes j'en ai, mais je suis toujours loin d'être cette Philippe. Dans l'impasse tu t'aperçois que t'es un stade où ta mère voit que t'es instable. Et tu subis la vie au lieu de te taper. Le bonheur qui s'équilibre, je sens comme un déséquilibre. Du cœur des tripes j'en ai, mais je suis toujours loin d'être cette Philippe. Dans l'impasse tu t'aperçois que t'es un stade où ta mère vois que t'es instable et tu subis la vie au lieu de te taper. Et puis je tire la tronche et des cernes parce que je kick à don sur la Z d'Aztec. Tout à coup j'ai des scènes où je m'évade dans la steppe. Et dans ma tête c'est une vraie punition, j'ai le cerveau en ébullition. Si le savoir est une arme, j'ai tendance à gâcher mes munitions. Et je sais même plus où je voulais en venir, car je coulais pour m'en souvenir. Sous des tas de doutes qui m'enveniment, j'essaie de garder la tête haute pour en faire les potes à Teco. Même si ma vie est un taudis crasseux très loin de l'art déco, faudrait que je trouve un taf, je devrais le noter sur un mémento. Parce que depuis trois piges, je porte les mêmes pompes ainsi que le même manteau. La tête dans les orties, à penser à des trucs sordides. Une sorte de cauchemar en orbite autour de cette planète Terre morbide. Et je suis pas net, frère, j'attends la mort vite. Regardons honteusement le fond de mes canettes d'alcool vide. Et je me demande si c'est pas la faute de mon père Yves que la peine est vide et que ma vie prend l'allure d'un périple. Le bonheur qui s'équilibre, je sens comme un déséquilibre. Du cœur des tripes j'en ai, mais je suis toujours loin d'être cette Philippe. Dans l'impasse tu t'aperçois que t'es un stade où ta mère voit que t'es instable. Et tu subis la vie au lieu de te taper. Le bonheur qui s'équilibre, je sens comme un déséquilibre. Du cœur des tripes j'en ai, mais je suis toujours loin d'être cette Philippe. Dans l'impasse tu t'aperçois que t'es un stade où ta mère voit que t'es instable. Et tu subis la vie au lieu de te taper. Les jours heureux se raréfient, marre de crier par ici là. Moi monnaie. Le tarif fixe, c'est que tu dois des billets aux gens que tu connais. Quand les dettes s'accumulent sans scrupule pour de la fumée et de la thune, les problèmes ça pullule. Mais je sais pas ce qu'il y a de plus nul entre la peste et le choléra. Ce qui m'importe, c'est d'oublier qu'il y a en moi cette colère noire. Et j'en bats et j'en parle et j'en gratte des lignes discrètes. Et j'entasse ce mal qui fait de moi cette fille distraite. J'ai bicravé vite en me lever parce que c'était tendu le matin. Mais le butin était faible, pas de quoi me rouler dans du satin. Parce que non, c'est pas simple de sortir de sa torpeur. Ça rêve d'or pur, mais ça sort tard et du coup ça dort peu. La drogue, l'alcool et la colère ensemble, ça fait des étincelles. Donc je veux y mettre un terme très vite avant de m'éteindre seul. Je vais pas m'étendre plus, je sais qu'on est plusieurs dans la détresse. Après trois piges, j'ai compris que rares furent les moments d'allégresse. Le bonheur qui s'équilibre, je ressens comme un déséquilibre. Du cœur des tripes, j'en ai, mais je suis toujours loin d'être cette Philippe. Dans la passe, tu t'aperçois que t'es un stade où ta mère voit que t'es instable. Et tu subis la vie au lieu de te taper. Le bonheur qui s'équilibre, je ressens comme un déséquilibre. Du cœur des tripes, j'en ai, mais je suis toujours loin d'être cette Philippe. Dans la passe, tu t'aperçois que t'es un stade où ta mère voit que t'es instable. Et tu subis la vie au lieu de te taper.
Toujours la petite cuillère, 102.2 FM sur Radio Canu, émission anticarcérale contre toutes les prisons. Et maintenant, on va vous parler, content, pas contente, les riverains, les riveraines et les tôles, amour et désamour. Qu'est-ce qui s'est passé dans la même semaine?
Amour et désamour.
Amour genre. Et désamour, quoi. Donc,
les feux de l'amour des riverains de prison.
Alors, Allure, c'est le grand amour des riverains avec leur prison. Dans ce bled-là, cette semaine, ils ont réussi à manifester à 400 personnes pour le maintien de la tôle et contre la casse des services publics. Alors là, c'est bonne revendication de gauche qui font plaisir. À l'appel du comité de vigilance pour le maintien des services publics de proximité. Donc une tôle de proximité, c'est toujours important. C'est mieux qu'une tôle éloignée, certes, mais c'est toujours une tôle. 400 personnes ont manifesté à Lure pour dénoncer la casse des services publics et demander le maintien de leur maison d'arrêt qui a été fermée en octobre dernier. Parce qu'elle était ben trop vétuste pour accueillir du monde. Les manifestantes demandent donc la remise en état de la zonze ou même la construction d'une nouvelle prison. Alors voilà, c'est Allure, on est en forme. Par contre, à Tarbes, dans le sud, là, c'est pas la même ambiance, quoi. Là, il y a une tôle, elle fonctionne, tout ça, on peut pas dire qu'elle fonctionne bien, ça reste une tôle, mais elle fonctionne. Et les riverains autour, ils sont vraiment exaspérés, ils en ont trop marre. Ils en ont trop marre des détenus, ils en ont marre des familles de détenus, tout ça, et ils sont bien relayés par le syndicat de la pénitentiaire locale, Force Ouvrière, comme à beaucoup d'endroits, qui dénonce, en profite pour dénoncer le climat de tension sur la tôle. Donc voilà, alors là à Tarbes, par contre, les riverains ont fait une association de riverains. Ils ne demandent pas la construction d'une deuxième prison, ils demandent la suppression de la prison du centre-ville. Et notamment, ils dénoncent les cris, les pétards, les fumigènes lancés sur l'établissement par les familles de détenus. Donc voilà, maintenant on se met non seulement à ne pas aimer les détenus, mais aussi leurs familles.
Ils dénoncent. En plus, c'est un peu les seules choses qui sont un peu librement faites en tôle, quand il y a des parloirs sauvages ou quand il y a des petits gestes de l'extérieur pour l'intérieur et que les prisonniers ils arrivent à capter ces trucs-là. En général, c'est plutôt des trucs qui boostent le moral, et sachant que les trucs qui boostent le moral quand t'es en tôle, il n'y en a pas des masses.
Exactement.
On se dit bien que ces personnes qui sont pas contentes, qu'il y ait des pétards et de la fumée et des gens qui crient, bon, on les aime pas trop.
Eh ben non, on les aime pas trop, non. Ils aiment pas trop les parloirs sauvages, alors nous, on les aime pas trop. Et qu'est-ce qu'ils disent les matons, ils sont bien emmerdés parce qu'ils disent, ben quand il y a des nuisances, les riverains appellent et viennent sonner à la maison d'arrêt, commencent à prendre à partie les gardiens. Alors les gardiens, ils sont pris à partie à l'intérieur par les détenus, mais à l'extérieur par les riverains. Les pauvres bichettes. Alors voilà, et puis... Du coup, les riverains, les riveraines de la maison d'arrêt de Tarbes se posent la question, est-ce qu'il faut la fermer? Mais alors, comment on va faire pour vivre? Du coup, peut-être une reconstruction en périphérie, comme ça, mettre la prison loin, ne plus la voir, que ce soit encore plus emmerdant pour les familles de détenus, comme ils ont fait à Lyon et dans plein d'autres villes de France. Voilà pour les riverains, les riveraines, amours et désamours de leur prison locale.
Et on enchaîne avec la suite. Leur force, nous faire croire que leurs murs sont infranchissables. Notre force, montrer que chaque jour, des personnes arrivent à les contourner, les franchir, les détruire un petit peu. La vie m'a ongle, une rubrique sur toutes les évasions.
Toujours sur Radio Canus, 102.9 FM, la plus rebelle des radios, avec pas de retour en studio. On passe à la rubrique Lima Ongle, vous l'aurez compris. Les petites personnes qui arrivent à s'évader des murs très hauts, des prisons et à courir vite vite. On commence tout de suite début novembre, dans l'est de la République démocratique du Congo. 99 détenus se sont fait la malle de la prison de Kikwit après avoir scié puis cassé la porte de leur cellule. Au moins un d'entre eux aurait été blessé par balle par des flics et seulement une trentaine aurait été rattrapée. 7 des 8 policiers commis à la garde de cet établissement pénitentiaire ont été arrêtés par l'auditorat militaire de la garnison de Kikwit et le chef de poste des flics est en fuite. Pour les observateurs, l'état délabré de la prison construite à l'époque coloniale en tant que dépôt d'une entreprise commerciale serait à la base des évasions à répétition.
On enchaîne en Côte d'Ivoire où 53 prisonniers se sont évadés à la prison civile d'Adzopé au sud du pays dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 novembre. Les évadés avaient creusé un trou à la petite cuillère peut-être. Ils avaient creusé un trou au sein de la prison, ce qui a facilité leur évasion pendant la nuit sans que les matons ne puissent s'en apercevoir. Bien joué.
Big up. On continue avec Tô. C'était lundi 16 novembre, un groupe de 200 migrants émigrants a tenté de forcer la frontière entre le Maroc et l'Espagne, la frontière terrestre des enclaves de Ceuta et Melilla. Le lendemain, aux premières heures de la matinée, près de 400 migrants ont remis ça. La tentative a été lancée à quatre endroits séparés de la clôture haute de 6 mètres. Une seule personne aurait réussi à franchir la clôture et à se rendre au centre temporaire d'hébergement des migrantes. On lui souhaite bonne chance et bon courage.
Le 17 novembre, en Colombie, une mutinerie a éclaté dans un centre de détention pour mineurs de Bogota. Les parents dénoncent des agressions de la part des matons contre les jeunes et le fait que certains mineurs ne soient pas autorisés à sortir malgré la fin de leur peine. Les jeunes ont donc pris les devants. Ils ont détruit la tôle, incendié les dortoirs, blessé 27 matons avant de prendre la poudre d'escampette. 43 jeunes se sont donc évadés, mais une vingtaine a déjà été rattrapée par les flics. Bon courage aux autres.
Et ouais. Et on continue avec jeudi 20 novembre à Agen. À Agen, la BAC, c'est la BAC qui me fait tousser, est intervenue pour interpeller une personne et s'est fait insulter. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Au commissariat, cette personne, attention, a tenté d'enfoncer une porte. Un petit geste, certes, qui vaut tentative d'évasion, même s'il n'a pas mené à grand-chose et qui lui vaudra un passage sûrement houleux au tribunal.
Ensuite, on part dans le sud-ouest du Pacifique, au Vanuatu, où deux prisonniers se sont évadés mardi 25 novembre. Ils étaient détenus dans le complexe pénitentiaire surnommé la ville des conteneurs maritimes. C'est financé par la Nouvelle-Zélande. On vous en avait parlé il y a quelque temps que la Nouvelle-Zélande y finançait des centres pénitentiaires ailleurs, etc., etc. Bref, si vous avez suivi, vous comprendrez. Pour eux, s'évader, ça a été un jeu d'enfant parce qu'ils ont simplement dévissé le plancher métallique de leur conteneur. Et ouais.
Et voilà pour les petites limes à ongles et les petites évasions du moment.
Et maintenant, tu vas nous parler d'un centre de rétention en Grèce, je crois bien.
Eh ouais, grave. Parce qu'en Grèce, c'est grave la merde. Il y a un centre de rétention donc pour migrants, migrantes, qui arrivent sur les territoires grecs. Ce centre est situé à Amygdalesa. Et il est financé par les fonds européens pour accueillir les migrants illégaux et demandeurs d'asile. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? En gros, violence, coups, injures, absence de soins médicaux, conditions de vie ignobles dans des baraquements, sans eau ni lumière, les rats pullulent, tout ça. C'est bien l'horreur et du coup, il y a pas mal d'associations qui se mobilisent pour faire connaître ce qui se passe. Dans ce centre, déjà, on pouvait en parler la semaine dernière. Pendant 6 jours, 1000 des 1600 migrants détenus ont fait une grève de la faim. C'est énorme, une grève de la faim à 1000 personnes sur 1600. Et ce centre, il est situé juste à 10 km d'Athènes. Il n'est pas au milieu de nulle part, au fin fond de la Grèce. C'est à 10 bornes d'Athènes que c'est cette horreur-là. Donc, en même moment, en fait, il y a un procès qui s'ouvre, en ce moment, de 65 détenus, parce qu'ils auraient pris part aux émeutes dans ce centre de rétention, en août 2013. Et ces 65 détenus s'attendent à de lourdes accusations pénales. Mais à l'époque déjà, ils protestaient contre la durée allongée de la rétention, qui pouvait aller jusqu'à 25 mois, et des conditions inhumaines de rétention. Il faut rappeler que le passage irrégulier des frontières est une infraction administrative et pas pénale, ce qui démontre déjà le caractère complètement arbitraire et punitif, des détentions d'une aussi longue durée, alors qu'en fait il n'y a aucun délit qui a été commis. Et franchir une frontière, c'est pas un délit en soi, c'est voilà, ouais, t'as fait ça, t'es passé, point barre. Enfin, sur ce qui se passe maintenant, dans ce centre de rétention à Amygdalesa, les migrants dénoncent des coups de matraque, des injures qui font partie du quotidien. Ils affirment aussi que certains des gardiens les plus agressifs affichent leur allégeance au groupe néo-nazi Obdoré, un groupe violent d'extrême droite grecque qui fait pas mal parler de lui en ce moment. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'était le 6 novembre avec la mort d'un jeune détenu, Mohamed Afshak, pakistanais, qui est décédé à cause d'un manque de soins alors qu'il était blessé et asthmatique. Alors voilà, et en plus de ça, quelques jours plus tard, c'est un autre détenu pakistanais qui est décédé d'une crise cardiaque. Et de la même manière, si ces deux personnes avaient eu accès à des soins, ils auraient été sauvés. Mais pas de chance, dans le centre de rétention d'Amygdalesa, les matons refusent toujours de donner des soins aux détenus et les seuls médicaments auxquels les détenus ont accès, c'est du paracétamol, ce qui ne fait strictement rien. Les détenus sont logés ou dans des conteneurs, seulement la moitié de ces boîtes métalliques ont l'eau courante et l'électricité. Quand il y a l'eau, elle est froide et les toilettes débordent, les rats et les cafards pullulent. Voilà, samedi 22 novembre, les retenus d'Amygdalesa ont provisoirement suspendu leur grève de la faim pour donner 5 jours aux autorités pour tenir leurs promesses. Les autorités, déjà, ont cédé à certaines demandes des migrants, donc ça n'aurait pas servi à rien de se mettre en grève de la faim à 1000, et notamment, ils pourront téléphoner plus que 5 minutes à leurs proches, c'est déjà pas mal. Les autorités ont promis la restitution des téléphones portables qui avaient été confisqués auparavant et l'amélioration de la qualité de la nourriture. Les autorités ont libéré enfin 30 migrants sur les 180 qui étaient détenus depuis plus de 2 ans et ont promis d'examiner individuellement les 150 cas restants. Alors voilà, une affaire à suivre et peut-être une grève de la faim qui va reprendre. En tout cas, quelques victoires à fêter déjà.
Et voilà,
et
c'est
avant
tout bon
de passer à une petite lecture, je crois, juste signaler l'existence toute nouvelle d'un site web, site belge, qui est assez classe, www.séjourderêve.be. Il n'y a pas d'accent, séjourderêve.be. Et c'est un site web qui est tout petit, assez bien fait. Vous aurez vite fait le tour, mais ça vaut le coup parce qu'il veut casser toutes les idées reçues sur la prison, que c'est un hôtel 4 étoiles et tout ça. Donc, en fait, ils s'attaquent sur un site web, vous pourrez voir chambre, restauration, loisirs, etc. Et à chaque fois, pour chaque thème, vous aurez la loi, vous aurez les mythes et vous aurez les expériences. Et voilà, pour se faire les idées avec des citations, notamment des citations de détenus belges et tout ça dans la partie expérience, et c'est assez intéressant.
Allez y faire un tour si vous avez un peu de temps.
Voili voilou, et maintenant on s'intéresse à Papillon.
Et oui, c'est super. La petite lecture du soir. Lecture du soir, bonsoir. Et comme plusieurs autres fois auparavant, je vais vous lire un morceau du livre Papillon de Henri Charrière. Alors pour le moment, qu'est-ce qu'on a appris sur Papillon, c'est que il est passé en procès en 1931 pour un meurtre du milieu et il a été condamné au dur contre toute attente parce que personne s'y attendait. Du coup, il est en attente d'être emmené au bagne et il est dans une petite, toute petite cellule où il avance, il recule, il réfléchit et il n'a que la place pour penser et être lui-même avec lui-même. Tout à coup, un cri de désespoir, aigu, horriblement angoissant, arrive à franchir la porte de ma cellule. Qu'est-ce que c'est ? On dirait les cris d'un homme qu'on torture. Pourtant, on n'est pas la police judiciaire ici. Pas moyen de savoir ce qui se passe. Ça m'a bouleversé, ces cris dans la nuit. Et quelle puissance ils doivent avoir pour franchir cette porte capitonnée. C'est peut-être un fou. C'est si facile de le devenir dans ces cellules où rien n'arrive jusqu'à vous. Les Chinois, eux, ont inventé la goutte d'eau, il paraît, qui vous tombe sur la tête. Les Français, eux, ont inventé le silence. Ils suppriment tout moyen de se distraire. Ni livre, ni papier, ni crayon. La fenêtre au gros barreau est complètement bouchée par des planches. Quelques petits trous laissent passer un peu de lumière très tamisée. Très impressionné par ce cri déchirant, je tourne comme une bête en cage. J'ai vraiment bien la sensation d'être abandonné de tous et de me trouver littéralement enterré vivant. Oui, je suis bien seul. Tout ce qui me parvient ne sera jamais qu'un cri. On ouvre la porte. Un vieux curé apparaît. Tu n'es pas seul, il y a un curé, là, devant toi. Mon enfant, bonsoir. Excuse-moi de n'être pas venu avant, mais j'étais en vacances. Comment vas-tu ? Et le bon vieux curé entre sans façon dans la cellule et s'assied tout bonnement sur mon grabat. On discute, il pose des questions, je réponds. Puis il me dit « Que puis-je faire pour toi ?»« Que puis-je faire pour toi ?» répète le curé. « Un délit, mon père. » « Lequel ?» « Aller à la cellule 37, dire à deux gars qu'il fasse faire par son avocat une demande pour être envoyé à la centrale de Caen et que moi je l'ai faite aujourd'hui. Il faut vite partir à la conciergerie pour une des centrales où l'on forme les convois pour la Guyane. » Car si on rate le premier bateau, on doit attendre 2 ans de plus en réclusion avant qu'il y en ait un autre. Après l'avoir vu, monsieur le curé, il faut revenir ici. Le motif ? Par exemple, que vous avez oublié votre bréviaire, j'attends la réponse. Et pourquoi es-tu si pressé de t'en aller dans cette horrible chose qu'est le bagne ? Je le regarde, ce curé, et presque sûr qu'il ne me trahira pas, pour m'évader plus vite, mon père. Dieu t'aidera, mon enfant, j'en suis sûre, et tu referas ta vie, je le sens. Il est revenu très vite. Degas est d'accord. Le curé m'a laissé son bréviaire jusqu'au lendemain. Le résultat des demandes n'a pas traîné. Une semaine après, on se retrouve, 7 hommes, à 4h du matin, alignés dans le couloir de la conciergerie. Les gaffes sont présents, au grand complet. À poil. Tous, on se déshabille lentement. Il fait froid, j'ai la chair de poule. Laissez vos affaires en face de vous. Demi-tour, un pas en arrière. Et chacun se trouve devant un paquet. Habillez-vous. La chemise de fil que je portais quelques instants auparavant est remplacée par une grosse chemise de toile écrue, raide, et mon beau costume par un blouson et un pantalon de bure. Mes chaussures disparaissent et à leur place, je mets les pieds dans une paire de sabots. Jusqu'à ce jour, on avait un aspect d'homme normal. Je regarde les 6 autres, quelle horreur. Fini la personnalité de chacun. En 2 minutes, on s'est transformé en bagnard. À droite, en fil, en avant-marche. Escortés par une 20aine de gardiens, nous arrivons dans la cour où, l'un après l'autre, chacun est introduit dans un placard étroit d'une voiture cellulaire, en route pour Beaulieu, nom de la centrale de Caen. À peine arrivé à la centrale de Caen, on est introduit dans le bureau du directeur. Il trône derrière un meuble empire sur une estrade haute d'1 mètre. « Garde à vous, le directeur va vous parler. Condamné, vous êtes ici à titre de dépôt en attendant votre départ pour le bagne. » Ici, c'est une maison de force. Silence obligatoire à tout moment. Pas de visite à attendre, ni de lettre de personne. Ou on plie, ou on casse. Il y a 2 portes à votre disposition. Une pour vous conduire au bagne, si vous vous comportez bien. L'autre pour le cimetière. En cas de mauvaise conduite, voici. La moindre faute sera punie de 60 jours de cachot au pain et à l'eau. Personne n'a résisté à 2 peines de cachot consécutives. À bon entendeur, salut. Il s'adresse à Pierrot le Fou, extradé d'Espagne. « Quelle était votre profession dans la vie ?»« Toréador, monsieur le directeur. » Furieux de la réponse, le directeur crie. « Enlevez-moi cet homme, militairement !» En moins de deux, le toréador est assommé, matraqué par quatre ou cinq gaffes, emporté en vitesse, loin de nous. On l'entend crier « Espèce d'enfoiré, vous vous mettez 5-1 et encore, avec des matraques, salopard !» Un cri d'animal blessé à mort, et puis plus rien. Seulement le frottement sur le ciment de quelque chose que l'on traîne par terre. Après cette scène, si on n'a pas compris, on ne comprendra jamais. Deux gars est près de moi, il déplace un doigt, un seul, pour me toucher le pantalon. J'ai compris ce qu'il veut me dire. Tiens-toi bien si tu veux arriver vivant au bagne. La chance a voulu que deux gars soient à côté de moi, dans la cellule, juste à côté de la mienne. Auparavant, on a été présenté à une espèce de monstre rouquin d'1m90 ou plus, borgne, un air de bœuf tout neuf dans la main droite. C'est le prévôt, un prisonnier qui fait fonction de tortionnaire aux ordres des gardiens. Il est la terreur des condamnés. Les gardiens ont avec lui l'avantage de pouvoir bastonner et flageller les hommes, d'une part, sans se fatiguer, et s'il y a mort, sans responsabilité pour l'administration. 1, 2, 3, 4, 5, demi-tour. 1, 2, 3, 4, 5, demi-tour. Et commence le va-et-vient interminable du mur à la porte de la cellule. On n'a pas le droit de se coucher pendant la journée. À 5h du matin, un coup de sifflet strident réveille tout ce monde. Il faut se lever, faire son lit, se laver, et ou marcher ou s'asseoir sur un tabouret fixé au mur. On n'a pas le droit de se coucher dans la journée. Comble de raffinement du système pénitentiaire, le lit se relève contre le mur et reste accroché. Ainsi, le prisonnier ne peut pas s'étendre et on peut mieux le surveiller. 1, 2, 3, 4, 5, demi-tour. 14h de marche. Pour bien acquérir l'automatisme de ce mouvement continu, il faut apprendre à baisser la tête, les mains derrière le dos, ne marcher ni trop vite, ni trop doucement. Bien faire des pas de même dimension et tourner automatiquement à un bout de la cellule sur le pied gauche et à l'autre bout sur le pied droit. 1, 2, 3, 4, 5, demi-tour. Les cellules sont mieux éclairées qu'à la conciergerie et on entend les bruits extérieurs, ceux du quartier disciplinaire, et aussi certains qui nous arrivent de la campagne. La nuit, on perçoit les sifflements ou les chansons des ouvriers de la campagne qui rentrent chez eux, contents d'avoir bu un bon coup de cidre. J'ai eu mon cadeau de Noël. Par une fissure des planches qui bouche la fenêtre, j'aperçois la campagne toute blanche de neige et quelques gros arbres noirs éclairés par une grosse lune. On dirait une de ces cartes postales typiques pour Noël. Secoués par le vent, les arbres se sont débarrassés de leur manteau de neige et grâce à cela, on les distingue bien. Ils se découpent en grosses taches sombres sur le reste. C'est Noël pour tout le monde. C'est même Noël dans une partie de la prison. Pour les bannières en dépôt, l'administration a fait un effort. On a eu le droit d'acheter 2 barres de chocolat. Je dis bien 2 barres et non 2 tablettes. Ces 2 morceaux de chocolat d'Aigbel ont été mon réveillon de 1931. 1, 2, 3, 4, 5, demi-tour. La répression de la justice m'a transformé en balancier. L'aller et retour dans une cellule est tout mon univers. C'est mathématiquement calculé. Rien, absolument rien, ne doit être laissé dans la cellule. Il ne faut surtout pas que le condamné puisse se distraire. Si j'étais surpris à regarder à travers cette fente du bois dans la fenêtre, j'aurais une sévère punition. Au fait, n'ont-ils pas raison, puisque je ne suis pour eux qu'un mort-vivant? De quel droit me permettrais-je de jouir de la vue de la nature? Un papillon vole, il est bleu clair avec une petite raie noire, une abeille ronronne non loin de lui, près de la fenêtre. Que viennent chercher ces bêtes à cet endroit? On dirait qu'elles sont folles de ce soleil d'hiver, à moins qu'elles aient froid et veuillent entrer en prison. Un papillon en hiver est un ressuscité. Comment n'est-il pas mort? Et cette abeille, pourquoi a-t-elle quitté sa ruche? Calcul ou inconsciente s'approchait d'ici. Le lendemain de la visite de ces 2 charmants insectes, je me fais porter malade, j'en peux plus, j'étouffe de solitude. J'ai besoin de voir un visage, d'entendre une voix, même désagréable, mais enfin une voix, d'entendre quelque chose. Tout nu dans le froid glacial du couloir, face au mur, mon nez à 4 doigts de lui, j'étais l'avant-dernier d'une file de 8, attendant mon tour de passer devant le docteur. Je voulais voir du monde, eh bien, j'ai réussi. Le prévôt nous surprit au moment où je murmurais quelques mots à Julot, dit l'homme au marteau. La réaction de ce sauvage rouquin fut terrible. D'un coup de poing derrière ma tête, il m'assomma à moitié et comme je n'avais pas vu venir le coup, je suis allée frapper du nez contre le mur. Le sang jaillit et après m'être levé, je me secoue et essaye de réaliser ce qui m'est arrivé. Comme j'esquisse un geste de protestation, le colosse qui n'attendait que cela, d'un coup de pied dans le ventre, m'étend à nouveau par terre et commence à me cravacher avec son air de bœuf. Julot ne peut supporter cela. Il lui saute dessus. Une terrible bagarre s'engage et comme Julot a le dessous, les gardiens assistent impassibles à la bataille. Personne ne s'occupe de moi, qui vient de me relever. Je regarde autour si je ne vois rien comme arme. Tout à coup, j'aperçois le docteur penché sur son fauteuil, essayant de voir la salle de visite, ce qui se passe dans le couloir, et en même temps, le couvercle d'une marmite qui se soulève sous la poussée de la vapeur. Cette grosse marmite en émail est posée sur le poêle à charbon qui chauffe la salle du docteur. Sa vapeur doit servir à purifier l'air, certainement. Alors, d'un réflexe rapide, j'attrape la marmite par ses oreilles. Je me brûle, mais ne lâche pas prise. Et d'un seul coup, je jette cette eau bouillante à la figure du prévôt, qui ne m'avait pas vu tant il était occupé avec Julot. Un cri épouvantable sort de la gorge du bougre. Il est bien touché, il se roule par terre et s'arrache ses habits difficilement l'un après l'autre. Quand il arrive au troisième, la peau vient avec. Il a été brûlé aussi à son unique œil et est aveugle. Enfin, il se relève, hideux, sanguinolant les chairs à vif, et Julot en profite pour lui porter un coup de pied terrible en pleine couille. Il s'écroule, le géant, et se met à vomir et à baver. Il a son compte. Et nous, on ne perd rien pour attendre. Voilà pour ce soir, pour la petite lecture du soir. Bonsoir. On se donne rendez-vous peut-être dans 2 semaines pour continuer la lecture de Papillon, ou peut-être un peu plus tard, vous verrez, ce sera la surprise surprise.
Message des proches.
La petite cuillère.